seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Les îles sont particulièrement vulnérables face au changement climatique et à la hausse du niveau marin. Le projet collaboratif Odysseieux apporte des informations et des réponses pour anticiper le comportement géologique et morphologique de l'île-Dieu, avec entre autres la sortie Le Chemin Bleu, l'objectif faire prendre conscience des risques. Elsa Cariou, ingénieure de recherche à l'Observatoire des sciences de l'Université de Nantes.
La sortie Le Chemin Bleu, c'est un circuit au sein du Marais Salé qui permet donc de montrer à différents endroits les niveaux que pourrait atteindre l'eau, soit en cas d'inondation, soit en cas de submersion marine et de rupture du cordon dunaire. On sait que le Marais Salé, c'est évidemment une zone inondable, hein, ça c'est une surprise pour personne. En revanche, ce qu'on a un peu plus de mal à percevoir, souvent, c'est justement les risques de submersion et de rupture de cordon dunaire. Or, on s'est rendu compte que le Marais Salé, le cordon dunaire est particulièrement fragile puisqu'il a été exploité au 19e siècle et que donc il y a une grosse partie du sable qui manque aujourd'hui, ce qui veut dire que le cordon dunaire est particulièrement fragile et donc... Voilà, qu'il y a des réels risques de rupture, à la fois en cas de submersion, donc si au cours d'une tempête, le niveau de la mer est suffisamment élevé pour vraiment venir attaquer la dune, mais aussi éventuellement en cas d'inondation du marais, puisqu'on voit bien que quand il y a de fortes inondations dans les marais de l'île, ça peut arriver qu'effectivement l'eau pluviale vienne pousser tellement fort en arrière de la dune que ça l'amène à se rompre. C'est quelque chose qu'on observe souvent au niveau de la pointe du but, mais qu'on pourrait aussi éventuellement observer au Marais Salé. En fait, ce que nous dit le GIEC, et notamment le GIEC régional, c'est qu'au niveau des Pays de la Loire, il faut s'attendre à des pluies régulièrement plus intenses que ce à quoi on est habitué. Et puis en parallèle, on a la mer qui monte, hein, ça c'est une surprise pour personne non plus, donc maintenant ça va pas aller en s'arrangeant, c'est sûr, et donc il faut qu'on trouve des solutions pour s'adapter.
Parole de Marais, c'est un projet Art Science qui vient conforter les travaux déjà existants au sein du programme Odyssey Île.
C'est un joli projet qui vise à installer un certain nombre d'œuvres de manière plus ou moins pérenne dans le bassin versant du Marais, et ces œuvres auraient vocation soit à expliquer les phénomènes, soit même à participer à les étudier. Donc ça peut être par exemple quelque chose qui va permettre d'observer la biodiversité qui passe entre la mer et le marais. On sait qu'il y a des espèces qui sont capables de transiter. Ça pourrait être une œuvre d'art qui permettrait non seulement d'expliquer, mais aussi de voir comment ça fonctionne.
Elsa Cariou participe également à l'aire marine éducative et au projet Au fil de l'eau avec le comité de développement de l'agriculture de l'Île-Dieu.
Ces actions qui sont toujours à la fois scientifiques et à la fois collaboratives, qui font intervenir les agriculteurs, les riverains, les scolaires, de manière à ce que ce soit vraiment tout le monde qui participe à l'acquisition de données et qui comprenne mieux ce qui se passe, comment ça fonctionne. Et parce qu'on part du principe que plus collectivement on comprend comment les choses fonctionnent, mieux après on les gère. La gestion de l'eau à l'Île-Dieu, je pense que la première étape est franchie, c'est-à-dire qu'on justement, plus ça va, mieux on comprend comment fonctionnent les choses, mieux on comprend qu'il faut effectivement prendre l'ensemble des bassins versants quand on veut régler un problème, c'est-à-dire si on a un problème d'érosion sur la plage, finalement, il faut vraiment considérer que ce problème, en réalité, il a pour cause certainement des choses qui sont aussi plus loin dans le bassin versant, plus haut, et éventuellement des choses aussi plus en aval. Et donc, il faut considérer l'ensemble du système. Et je dirais que ça, c'est quand même une première étape hyper importante, et que tant qu'on n'a pas compris ça, on est toujours un petit peu bloqué et on ne fait que mettre des pansements à droite et à gauche. Maintenant, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de fossés, de mares qui ont été bouchés et pour lesquels il serait utile de réviser vraiment le réseau hydrographique de l'île. C'est en cours.
Pensée locale, un enjeu de société.
Dans le cadre du projet Au fil de l'eau, le collectif agricole de l'Île-d'Yeu a subventionné l'Institut Polytechnique Unilassalle pour réaliser une étude globale sur les ressources en eau superficielle et souterraine à l'échelle de l'Île-d'Yeu. Michael Goujon, ayant travaillé pour Unilassalle jusqu'en août 2023 en qualité d'enseignant-chercheur en hydrogéologie, site sol pollué, bonjour.
Oui, bonjour tout le monde, bonjour.
Qu'entendez-vous par ressources en eau superficielle et souterraine ?
Sur l'Île-d'Yeu, il faut avoir en tête que c'est un tout petit domaine qui est entouré d'eau salée. Et en fait, la pluie qui va s'infiltrer en profondeur va créer ce qu'on appelle une lentille d'eau douce qui va se retrouver piégée au sein même des roches et qui va être potentiellement en lien avec la partie eau superficielle que les gens connaissent généralement bien, fossés, ruisseaux et ainsi de suite.
Avec quelle méthode avez-vous travaillé ?
Avec nos étudiants et puis Pascal Lutz, ma collègue qui est géophysicienne, on est parti sur deux méthodes assez distinctes. La première, on a utilisé ce qu'on appelle de la géophysique. Donc on a utilisé la méthode de la résistivité électrique. Alors pour faire simple, on a injecté un courant électrique dans le sol par le biais d'électrodes. Et en fait, on a analysé la réponse finalement de ce courant qui avait été injecté. Cette partie-là nous permet d'estimer, confirmer les roches qui sont sous nos pieds, qu'on a pu entrevoir par le biais de la carte géologique locale. Ça nous permet aussi de voir le degré d'altération des roches, leur degré de fracturation et si elles contiennent ou pas, enfin oui ou non, de l'eau douce et ou de l'eau salée. Et typiquement, si on est dans de l'eau salée, on va avoir une résistivité très faible, l'eau salée étant très bonne conductrice de courant.
Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'eau douce ou d'eau salée ?
Alors, à l'échelle de l'île, il faut savoir qu'on a travaillé avec les étudiants à proximité des puits communaux et privés qui avaient été référencés. Et donc finalement, dans les zones où on a été, on peut dire qu'il y a plus d'eau douce.
Et la deuxième méthode, vous avez travaillé sur les puits.
Effectivement, donc quand on est arrivé sur l'île, la commune nous avait transmis un puits qui référençait les puits communaux. Donc il y en avait une trentaine à peu près. Et en fait, le premier travail qui a été réalisé par nos étudiants, ça a été d'aller rencontrer les gens pour cartographier les puits privés. Et donc, au bout d'une semaine de travail, ils en avaient déjà trouvé à peu près 120, sachant que vraisemblablement, il y en a encore un petit peu plus, hein, parce qu'il y a, étant donné que la mission s'est déroulée au mois de septembre 2020, il y avait beaucoup de maisons secondaires, donc on n'a pas pu, pour lesquelles on a pu rencontrer personne. Donc 120 puits dans lesquels on a mesuré les niveaux d'eau. La température, la conductivité, et puis à chaque fois, on a fait des prélèvements pour aller faire des analyses au laboratoire d'Unilassalle à Beauvais.
Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, ces prélèvements et ces analyses ?
Alors, ça nous a appris, la rencontre avec les personnes, et puis le fait d'aller mesurer les niveaux d'eau dans les puits, nous ont appris beaucoup de choses au niveau des usages. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau des puits, des 120 puits qu'il y avait, certains puits étaient utilisés pour l'arrosage des jardins, par exemple, certains pour les habitations, ou d'autres des usages qu'on préfère pas privilégier, rejet d'eau usée, et ainsi de suite, voire comblement des puits avec des matériaux divers et variés. Voilà, donc voilà un petit peu l'état des lieux, et finalement, les résultats nous ont montré que... On ne recherchait que les paramètres type nitrate, chlorure, et ainsi de suite. C'était vraiment orienté sur le côté eau douce ou eau salée des puits. Et finalement, la majorité des puits qui sont référencés sur l'île contiennent de l'eau douce. Ceux qu'on a retrouvés avec de l'eau salée, c'est ceux qui sont très proches de la côte et qui ont été contaminés soit par le temps, soit par les usages, par l'eau de mer finalement.
Est-ce que l'eau de ces puits évolue ?
Disons que l'étude que nous on a menée était vraiment très orientée eau douce, eau salée. Donc on n'a pas fait d'analyse de type pesticides, hydrocarbures ou même produits qu'on pourrait retrouver sur les eaux usées. Donc finalement, de notre point de vue par rapport à l'objectif que nous on s'est fixé, on peut dire que la qualité est plutôt bonne. Sachant que l'objectif final de cette étude, c'était d'imaginer que les agriculteurs locaux qui sont présents sur l'Île-d'Yeu puissent ou non utiliser l'eau des puits, l'eau de l'Île-d'Yeu finalement.
Alors, les agriculteurs, agricultrices peuvent-ils utiliser l'eau de ces puits ?
Il faudrait de toute façon faire une analyse un petit peu plus poussée que ce qu'on a pu faire sur l'île. Mais c'est vrai que c'était un des axes de travail et c'était l'eau est disponible de toute façon. sur l'île, à proximité des zones sur lesquelles on a travaillé, et notamment sur lesquelles il y avait de l'activité agricole. Après, pour savoir si elle est utilisable ou pas, voilà, il faut aller un petit peu plus dans le détail, mais en tout cas, en termes de quantité, on peut dire que ça pourrait être envisagé d'être utilisé par les personnes, les agriculteurs notamment sur l'île.
Dans un avenir plus ou moins proche, y a-t-il des risques que cette ressource devienne moins abondante sur l'île d'Yeu?
Alors en fait, c'est exactement le principe de l'île d'Yeu, c'est juste vous expliquer au départ, la lentille d'eau douce, donc vous êtes sur l'île d'Yeu, on peut considérer ça comme une éponge ou une espèce de coquille de noix, entourée d'eau salée. La différence de densité entre l'eau douce et l'eau salée crée cette lentille d'eau douce, et donc forcément, cette lentille d'eau douce va être contrainte par les besoins qu'il y aura sur cette dernière. Donc si elle est utilisée pour l'arrosage, pour la consommation, ainsi de suite, et aussi sera contrainte par la pluviométrie qui va permettre d'alimenter cette ressource en eau. Voilà, avec des années comme 2022 qui ont été particulièrement sèches, forcément c'est cette ressource-là, cette lentille d'eau douce, va être forcément très sujette à diminution. Et puis si on l'utilise de façon exagérée, finalement on arrivera à ce que l'eau salée imprègne toutes les sols et notamment en souterrain.
Donc vous ne pouvez pas nous dire si cette ressource va se tarir dans 10, 20 ou 30 ans?
On pourrait envisager, mais on rentre dans de la modélisation, des modèles prédictifs qui pourraient nous permettre d'essayer de calculer ça. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'incertitudes, notamment par rapport à la présence d'autres ouvrages et puis surtout la consommation qui en est faite, les besoins qui sont associés à cette utilisation d'eau souterraine. Où là, pour le coup, on a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Au doigt mouillé, pas sûr que la réponse puisse être scientifiquement acceptable, on va dire. On a fait cette étude-là sur une autre petite île qui est dans le golfe du Morbihan, qui s'appelle l'île d'Ar.
En Bretagne.
On avait les deux font partie de l'association des îles du Ponant. Donc, c'est toutes les îles qui sont référencées sur la côte ouest, et puis quand on monte vers la Bretagne. Donc, elles sont au nombre de 15. Et donc c'est une problématique qu'on avait déjà initiée sur l'île d'Ar, qu'on a reproduite sur l'île d'Yeu, et puis qu'on avait pour projet de reproduire sur d'autres îles. C'est vraiment des contextes locaux, des contextes insulaires, avec des ressources qui sont extrêmement limitées.
Limitées, car c'est un territoire clos.
Voilà, exactement. Si on va côté continent, forcément c'est des réservoirs beaucoup plus grands, différents, parfois beaucoup plus profonds, donc avec d'autres problématiques forcément.
Les conclusions de ce mémoire d'initiative à la recherche de ces 4 étudiants en 3e année d'ingénieur en géologie et environnement sont-elles disponibles sur Internet, Michael?
Toutes les documents qu'on a fournis, que les étudiants ont fournis, sont disponibles auprès de l'association Au fil de l'eau, qui nous a financés, et puis l'Université de Nantes, qui était aussi notre financeur. Et globalement, on va dire que ces études n'ont d'intérêt que pour les personnes qui savent les lire.
Michael Goujon, ancien enseignant, chercheur en hydrogéologie, sites et sols pollués à Uniasal. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Les résultats de différentes études sont en ligne sur odysseyeu.org/ressources. Laurent, Radio Neptune FM, l'île d'Yeu.
C'était L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Frappe en partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.